rendez-vous du Mondial du bâtiment, Construction 4.0, une émission animée par Nathalie Croiset.
Dans ces rendez-vous du Mondial du bâtiment, nous tournons nos yeux vers l'avenir. Le secteur de la construction du bâtiment avance dans la transformation digitale et la construction 4.0 permet de réinventer ces métiers, la mise en œuvre industrielle, de nouveaux systèmes de construction, l'utilisation du numérique sur les chantiers. On va beaucoup parler de BIM, de Lean, de 3D, mais aussi de hors-site et de préfabrication. Ça va être le cas aujourd'hui avec le sujet de la préfabrication meilleur ami du biosourcé. C'est une interrogation autour d'un chantier, l'illustration d'un chantier paille-bois du TP pour la construction du groupe scolaire Rony métropolitain à Rony-sous-Bois. Alors pour en parler, en plateau, Franck Vesco, bonjour. Qui est directeur général délégué du TB, Union Technique du Bâtiment, parce que j'en parlais à travers ce chantier, vous allez pouvoir nous l'illustrer. Christian Morel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc directeur commercial d'Accord Paille, agence chargée de développer la construction, notamment en paille. Alors vous n'aimez pas dire construction en paille, dites-le-moi précisément.
Non, voilà. On construit en bois et on isole en paille.
Voilà, alors quelques précision quand même pour présenter aussi Accord Paille.
Alors en fait, Accord Paille, on est une structure de développement de marché en fait, qui avons pour objectif effectivement de développer le marché, de sécuriser les projets, et nous intervenons sur tout le territoire métropolitain.
Voilà, donc vous allez pouvoir nous éclairer en particulier sur la paille. On a aussi un architecte, l'architecte en chef, évidemment directeur de la recherche et de l'innovation territoriale de la ville de Rony-sous-Bois, qui on peut dire a suivi de près ce chantier. Emmanuel Pesseres, vous êtes avec nous ?
Bonjour.
Bonjour. Voilà, je vous en prie, quelques mots aussi pour vous présenter.
Je suis directeur recherche et innovation à la ville de Rony-sous-Bois et architecte en chef. Et nous sommes à la fois les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre du projet dont on va parler, qui est une école qui est nommée Simone Veil, qui fait à peu près 3200 mètres carrés.
Voilà, on va commencer par vous. Vous allez nous expliquer le pourquoi du comment dans un instant. Mais puisqu'on parle de paille, il y a aussi du bois. Donc, on est ravis d'accueillir Céline Laurence. Vous êtes avec nous.
Bonjour.
Bonjour, déléguée générale de Fibois Île-de-France. Quelques mots là aussi pour vous présenter.
Tout à fait. Donc Fibois Île-de-France, c'est la représentation de la filière forêt-bois en Île-de-France. Donc, on fait partie d'un réseau plus large qui s'appelle Fibois France, qui regroupe toutes les interprofessions à l'échelle nationale. Et effectivement, on travaille énormément avec la paille et avec les autres biosourcés sur les sujets d'isolation. Et on reviendra sur l'impact du bois, notamment dans la préfabrication.
Voilà, exactement. Alors, on va beaucoup parler de préfabrication, évidemment, un peu de matériaux biosourcés. Emmanuel Pesseres, je me retourne vers vous, si je puis dire. Donc, comprendre les tenants et les aboutissants, vous avez vraiment souhaité, la ville de Rony-sous-Bois a vraiment souhaité, à travers ce projet, une réalisation, on va dire, résiliente aux changements climatiques et environnementaux, et qui intègre vraiment toutes les prémices d'une future et d'une architecture, on va dire, régénérative. Alors, quelques mots sur la conception, sur d'où c'est venu et pourquoi la préfabrication surtout ?
Merci. Donc un peu de contexte déjà, ça fait à peu près 10 ans que la ville de Rony-sous-Bois travaille dans ce cadre-là. Nous avons fait 1, 2, 3, 4, c'est notre quatrième école en paille. Alors moi je dis en paille parce que nous avons utilisé tous les types de construction paille, donc isolation paille entre poteaux, isolation paille en caisson, et la paille porteuse, donc là on est bien en construction paille, parce qu'elle est structurelle. Et nous avons choisi, afin d'être dans ce perfectionnement et dans l'approfondissement de notre dimension d'éco-construction, d'avoir un autre type de construction avec de la paille, qui est une construction avec de la terre crue, ce qui nous a conduit à aller vers la préfabrication. Donc, trois choses nous ont conduit à aller vers la préfabrication. La première chose, c'est cette envie de ne plus avoir de plastique dans le bâtiment. Et quand je parle de plastique, ce sont les pare-vapeurs et les pare-pluies qu'on trouve classiquement lorsqu'on fait notamment du caisson paille. Donc, aller directement vers de la terre sur de la paille, chose que l'on fait quand on fait de la paille en place, en paille porteuse ou en paille entre poteaux. Donc là, l'idée, c'était de se passer de ces films et d'aller directement vers la terre. L'autre chose, c'est que nous avions un temps réduit pour construire ce bâtiment, qui était de l'ordre d'un an de chantier, un peu plus, et qui a été percuté par le Covid et donc qui s'est rallongé malheureusement. Et puis nous avions un site qui était très exigu et qui reste très exigu. Donc, voilà, ce sont les trois choses qui nous ont conduit vers la préfabrication. Sachant que je suis assez content d'être ici, mais assez aussi surpris, parce que moi, je suis un militant du low-tech, donc pas du tout du 4.0, du numérique, des choses comme ça. Et je pense que la fabrication peut avoir un intérêt lorsqu'elle est locale, et lorsqu'elle est foraine, et lorsqu'elle est de l'ordre de l'atelier, et pas forcément de l'industrialisation.
Bah, on va en parler, justement. Ça va faire l'objet du débat. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est d'ouvrir les discussions. Mais alors, on va continuer un peu sur le chantier, puis après, on va ouvrir un peu les discussions avec vous, Franck Vesco. Donc, quelque part, c'était aussi une vraie nouveauté, hein, ce sur quoi vous avez travaillé, ce chantier, pour vous.
Une vraie nouveauté par la
taille. Rapprochez-vous du micro pour qu'on vous entende.
Une vraie nouveauté par la taille, par l'ampleur et par la volonté de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage d'avoir un bâtiment assez exceptionnel au niveau notamment du sourcing des matériaux, ce qui nous a posé quelques difficultés puisqu'on s'est aperçu que ce n'était pas toujours très simple. Arrête tout ce qu'on dit.
Alors, quand vous dites les matériaux, donc il y a évidemment la paille, le bois, mais pas seulement. Il y avait d'autres matériaux aussi dans cette histoire.
C'est l'emploi pour les enduits de terre qui viennent du Grand Paris, donc qui posent des problèmes d'analyse à un moment donné. C'est l'emploi de bois qui était francilien au départ, en feuillu, et on s'est aperçu assez rapidement que la filière avait un peu de mal à répondre à notre demande parce que les quantités employées sur le chantier de Rosny sont extrêmement importantes.
On avait combien de quantités, dites-moi ?
Il y a plus de 250 mètres cubes de chêne.
D'accord.
Donc, c'est vraiment des quantités dans un délai très court. Donc, forcément, parce que le délai au départ était de 14 mois, donc c'était relativement court pour un tel chantier. Et l'intérêt de donc je rejoins un peu M. Pézeres là-dessus, c'est que la préfabrication, c'est bien. Et sur ce chantier-là, on a eu la chance, on a fait une préfabrication, je dirais, 50-50. C'est-à-dire que les éléments ont été fabriqués dans notre usine de Villemandeur, mais assemblés sur un site à Romainville, à côté de Rosny.
D'accord.
Ce qui a permis quand même d'éviter l'inconvénient de la préfabrication, c'est-à-dire les coûts carbone liés au transport. Puisque là, le fait de fabriquer les caissons, de les assembler, de remplir de paille à Romainville, a évité à peu près 70 camions entre Villemandeur et Rosny.
Oui, c'est quand même l'un des grands enjeux quand on parle de préfabrication.
C'est-à-dire qu'il faut arriver au niveau construction à prendre le bilan carbone de l'ensemble de l'opération. Et on oublie souvent que des matériaux peuvent être biosourcés, mais qui viennent de très loin. In fine, quand on fait le calcul total, ils ne sont pas si écologiques que ça.
Alors pour vous acteurs, on va en parler, hein, parce que ça va ouvrir le débat, je pense, et puis aussi Céline Laurence pourra réagir aussi, puisqu'on a parlé de feuillus, on a parlé des bois, et où trouver aussi du bois pour ces constructions. Vous, est-ce que ça vous oblige aussi, on va dire, toutes ces nouvelles formes, notamment de matériaux, hein, biosourcés, de préfabrication, à redécouvrir, on va dire, des modes de construction, même, pourquoi pas, du passé, et réadapter à notre temps moderne?
Alors ça nous oblige à se reposer des questions, mais on a la chance d'avoir notre atelier qui est à Villemandeur, à côté de Montargis. Et à Montargis, on a la plus vieille maison en paille de France, qui est la maison Feuillette.
D'Europe.
Bon, alors d'Europe, je n'avais pas cette information. Et donc, en fait, on est sensible depuis très longtemps. Ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on fait de la construction paille. On a fait plus de 15 bâtiments construits en paille. Et donc, en fait, on retrouve... Ce qui est intéressant, c'est qu'on diversifie les usages. On a fait un centre culturel. Là, on termine ce qu'on pourrait appeler un petit centre commercial en paille. Ce qui est assez... On a fait des centres techniques, on a fait des écoles, on a fait des maisons. Et donc, en fait, la diversification des usages, c'est plus réservé à un type de bâtiment. Et c'est ça qui est intéressant.
Oui, parce qu'on a l'impression qu'il y a aussi un aspect sensibilisation. Alors, ça passe par les écoles. Visiblement, on le voit aussi avec cet exemple-là. Mais pas seulement, finalement. Ça se démocratise, si on peut signer.
Oui, parce qu'on a des bâtiments assez divers. On a fait un centre à Chevannes dans le 91. On a fait un centre technique municipal isolé en paille. Et bah, c'est un bâtiment qui est plutôt une fonction industrielle. Et on ne s'attend pas forcément à avoir un bâtiment isolé en paille, surtout pour une commune. Donc, on a des vrais développements à venir.
Alors, des vrais développements. Et est-ce que quand même, en la matière, il y a besoin de former encore, enfin, particulièrement à ces matériaux?
Alors, il y a besoin de former. Et c'est là où il y a l'intérêt de la préfabrication. C'est-à-dire que former dans un atelier, c'est beaucoup plus simple que sur un chantier. Vous éliminez tous les risques du chantier. La formation sur un chantier, un chantier, c'est un lieu de risque quand même. Et en atelier, on a plus de facilité pour apprendre la pédagogie, pour former les gens, pour amener des gens au travail, parce que c'est dans ces métiers-là, l'intérêt, c'est qu'on peut prendre des gens qui n'ont aucune formation de base et les amener. Et le chantier de Rony, d'ailleurs, est une grande partie, notamment au niveau du remplissage passe, c'était avec une entreprise d'insertion qui ça a été réalisé.
Alors, on va ouvrir un peu justement les discussions globalement sur la préfabrication. Je voulais quand même vous faire rebondir, réagir à nouveau, Emmanuel Pelleresse. Est-ce que vous pensez quand même que ce chantier, hein, ce qui est cette réalisation, c'est plutôt de l'ordre du prototype ?
Oui, nous sommes service recherche et innovation. Donc, ouais. Nous faisons... sinon des prototypes, parce qu'on peut dire que chaque bâtiment est un prototype, au moins c'est un bâtiment démonstrateur. Utiliser de la terre de Paris, c'est le début, j'espère que ça va s'étendre. Et puis faire de la terre sur de la paille, c'est, en préfabrication, c'est aussi très peu utilisé. On a quelques exemples en Belgique, mais de très petite taille. Donc c'est... Mais ce sont des démonstrateurs à échelle réelle, je veux dire, on est sur un groupe scolaire de 3200 m², donc c'est tout à fait dans la capacité de reproductibilité. Voilà. L'autre chose, c'est que dans ce type de bâtiment, on va plus loin, parce que si on parle du bois, nous allons aussi vers la cueillette en forêt, autrement dit de la sylviculture douce. On va choisir nos bois en forêt, on partit sur des petits exemples intégrés au bâtiment, et on va les débarder à cheval, on va les scier sur place avec une scierie mobile, et puis tout savoir-faire du TB va permettre sur place aussi de tailler les bois et puis de les mettre en œuvre. Donc, encore une fois, le mode constructif est lié à ce qu'on veut atteindre et au contexte. Il n'y a pas de solution miracle. Il y a à chaque fois, comme en architecture, à se reposer des questions de contraintes et de volonté. Et notre volonté à nous, c'est d'aller vers une architecture qui est, si possible, neutre vis-à-vis de l'écosystème social, biologique, matériel, et dans un espoir futur qui soit positif vis-à-vis de cet écosystème, alors qu'on est quand même très largement dans une destruction d'environnement à chaque fois qu'on construit au jour d'aujourd'hui.
Ben voilà, on va entamer comme ça les discussions. Alors Christian Morel, donc on le voit, hein, c'est là, évidemment un superbe projet, techniquement très, très bien réalisé, relève encore un peu, même si tu es un démonstrateur naturel, de l'ordre du démonstrateur quand même.
Oui, en fait, moi je le vois plus effectivement comme un outil de démonstrateur, mais c'est très important que des gens comme Emmanuel Pelleresse et toutes ses équipes, et des gens du DB puissent travailler sur ce genre de projet, parce qu'en fait ça fait progresser. J'aime à dire à mes clients qu'en fait, la technique de construction bois et d'isolation paille, c'est des techniques qui sont aujourd'hui, qui sont connues, qui sont reconnues, qu'on connaît depuis très longtemps. Mais l'intérêt de ce genre de projet, c'est que ça permet encore de les faire évoluer, en fait. Mmh. Voilà. Et de trouver d'autres solutions, d'imaginer d'autres solutions. Et c'est là aussi l'intérêt des matériaux biosourcés, c'est qu'en fait, même si c'est des matériaux qu'on utilise depuis très 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 longtemps, qu'on a eu tendance à oublier, mais au moins ça nous permet d'innover et d'aller chercher des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé il y a 10 ou 15 ans.
Et on le voit en tout cas dans cette histoire, j'allais dire, les maîtres d'ouvrage ont un rôle central à jouer. Il y a une prise de décision à prendre aussi sur ces sujets.
Moi, là-dessus, je dis toujours que sans la volonté du maître d'ouvrage, en fait, on perd notre temps, en fait. Hein. C'est le donneur d'ordre, c'est celui qui paye, c'est celui qui a envie. S'il n'y a pas cette envie-là, s'il n'y a pas cette volonté-là, tout le monde perd son temps, en fait. Hein. Voilà. C'est quand on parle de filière, le premier maillon de la filière, en fait, c'est le donneur d'ordre, en fait.
C'est le donneur. Et alors, puisque Franck Vesco parlait de construction paille, qu'il en réalise de plus en plus, vous voyez, vous, une... Alors, j'ai bien dit, c'est l'isolation paille, mais résume en construction paille, je pense que vous avez bien compris. Oui. Vous voyez aussi, on va dire, l'explosion est peut-être un grand mot, mais en tout cas, le développement du marché.
Ça, c'est une certitude aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on a des... En France, en région centre et autour, des charpentiers aujourd'hui pour lesquels l'usage de la paille en tant que matériau isolant, c'est quasiment jusqu'à entre 20 et 30% de leur volume sorti, ce qui était inenvisageable il y a 4 ans. Moi, je me souviens, il y a 3 ans ou 4 ans, quand j'ai démarré l'activité en région centre, je suis allé voir l'équipe du TB, c'était quelque chose qui n'existait pas encore. Voilà. Et donc aujourd'hui, on voit que ça se développe. et qu'il y a des régions aujourd'hui, ça se développe beaucoup plus vite qu'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui ont envie,
des
gens qui
n'ont pas envie. Et des régions en particulier, c'est lié, on va dire, au territoire, au fait de pouvoir trouver de la paille, ou c'est une volonté, entre guillemets, politique ?
Il y a surtout de la volonté politique, et on va dire, pour employer un mot pas très gentil, du lobbying volontaire. Pour développer, en fait. Hein, c'est ça, en fait. Hein, c'est d'informer les maîtres d'ouvrage qu'il existe d'autres choses que ce qu'on est habitué à faire en conventionnel depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. Voilà. Et c'est cette information qu'on leur apporte qui fait qu'après, effectivement, ils ont envie et qu'après, ils se donnent les moyens d'y arriver, en fait.
Alors, on a parlé de paille, on va parler de bois. Maintenant, on va retrouver Céline Laurence de Fibois Île-de-France. Alors, on a entendu parler beaucoup de bois, hein, notamment Emmanuel Passeresse qui a dit qu'il faut trouver du bois, etc. Peut-être d'abord que vous puissiez m'interpréter, enfin, me dire quel est votre point de vue aussi sur ce sujet de préfabrication.
Écoutez, en fait, le principe même du bois, c'est que c'est une filière sèche. C'est un peu le cœur de la nouvelle façon de construire bois et ensuite les chantiers comme le rappelaient les différents intervenants. En fait, ça apporte vraiment beaucoup d'avantages, on le voit en zone dense, sur des chantiers qui sont amenés à se faire plus rapidement, sans poussière, des chantiers propres, et même, par exemple, certains bailleurs sociaux, on peut faire des surélévations de bois, et ça marche énormément. Sur Paris ou la Petite Couronne, par exemple, on a vraiment besoin d'agir. Donc là, le bois, avec isolation paille ou autre isolation, permet vraiment d'apporter une solution concrète sur le genre de construction, sur l'élévation. Après, ça, on a vraiment, quand on parle de préfabrication, il faut vraiment regarder l'ensemble des typologies de préfabrication. Ça peut aller de la filière sèche classique au poutre où ça arrive, ou alors des panneaux 2D, par exemple, qui intègrent déjà l'isolation en cours, ou alors même aller vers de la 3D. On voit aujourd'hui qu'il est possible de préfabriquer carrément un module qui arrive en 3D et qui est posé directement sur place.
Donc finalement, là, on est vraiment dans le numérique, le 2D, le 3D, se disait tout à l'heure Monsieur Pesseras, il n'était pas du tout sur le même point de vue, les mêmes enjeux de préfabrication. Mais alors, la question de la filière, parce qu'on l'évoquait, hein, évidemment, la question de d'où vient le bois, hein, parce que ça a été vraiment la problématique, on en parlait avec Franck Vesco aussi. Qu'est-ce qu'il y a comme disponibilité, on va dire, en Île-de-France ?
Alors, aujourd'hui, il faut voir que aujourd'hui, l'Île-de-France, en fait, ça va constituer, la demande, en fait, en bois explose, ce qui est très positif. On y contribue aussi, on a notamment via la signature de nombreux maîtres d'ouvrage et aménageurs du pacte bois biosourcé. Donc là, il y a une explosion en fait, de la demande et on l'estime à une augmentation peut-être à peu près de 20% de part de marché en 2030.
Donc ça, vous voulez dire, c'est la demande, hein, c'est ça. Je suis désolée, ça coupe. On vous entend, mais ça coupe un tout petit peu. Donc j'espère qu'on va pouvoir vous suivre. Il y a un petit souci de connexion, mais on vous entend. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une demande.
Vraiment, la demande, en fait, l'Île-de-France va continuer à représenter de plus en plus la part croissante de la demande en bois. Après, aujourd'hui, pour répondre à cette demande en bois, c'est pas forcément l'Île-de-France qui va pouvoir y contribuer. On va pas forcément chercher le temps du bois local pour deux raisons. Un, parce qu'aujourd'hui, la plupart du bois qui est utilisé en structure, notamment pas forcément en aménagement, mais en structure, c'est du résineux. Et donc, pour aller chercher du résineux, on en a très peu en Île-de-France, il faut aller le chercher plutôt soit dans les Landes, soit en Alsace, ou dans l'Est, ou en Auvergne-Rhône-Alpes.
Donc là, vous avez des feuillus, c'est ça, principalement.
Et nous, par contre, on voit 70% de la surface de forêt en France, c'est des feuillus. Donc, il faut qu'on travaille davantage maintenant pour utiliser le feuillu en structure, en aménagement intérieur, en aménagement extérieur. Et là, on a un certain nombre de procédés d'innovation qui sont en train de voir le jour avec des démonstrateurs pour utiliser le peuplier, par exemple, ou le hêtre en structure, en construction bois. Et c'est des choses qui vont vraiment se développer au-delà du démonstrateur en massification dans les prochaines années.
Oui, parce que c'est vrai que si on utilise le bois, on veut répondre aussi à un enjeu, parce qu'on parle aussi d'économie circulaire, etc., un enjeu local. Si on ne peut pas trouver du bois à proximité, ça pose un problème, on va dire, pour la solution, et notamment le bilan carbone dont parlait Franck Vesco.
Après, nous, on est vraiment sur l'utilisation du bois français avant tout. Quand on regarde d'où vient le béton ou le sable, on se pose moins la question de savoir s'il vient en dehors de la France. Ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'on soit vertueux sur tous les sujets. Certes, l'utilisation du bois ou d'autres matériaux de soufflé réduit drastiquement le bilan carbone du bâtiment dans la partie construction, mais il faut qu'on regarde également le sujet de transport, c'est évident. On travaille par exemple beaucoup avec la Normandie sur l'utilisation des transports fluviaux qui viendraient directement de Normandie pour faire venir le bois. Donc là, on réduit directement. Après, quand on est dans le circuit court autour de 200 ou 300 km autour de Paris, on considère qu'on reste vertueux.
Alors peut-être Franck Vesco, rebondir sur cette question aussi du bois, hein, de l'approvisionnement en bois.
L'approvisionnement, là en ce moment on vit une période très compliquée dans l'approvisionnement en bois puisqu'il y a une déstabilisation totale du marché mondial à cause des États-Unis et ce qui fait que la demande de construction en bois explose et l'approvisionnement en bois diminue drastiquement. Donc là on a, en France, on a un problème sur 2021-2022 assez important.
Oui, surtout qu'en plus, il y a finalement aussi la réglementation qui pousse à utiliser de plus en plus de matériaux biosourcés aussi.
Il y a une
réglementation
qui a été repoussée de 6 mois, donc qui va nous donner un peu d'oxygène, mais conjoncturellement, on a un problème. Et il y a eu un sous-investissement dans la filière bois en France, qui est connu par tout le monde, notamment au niveau d'exploitation des forêts et tout ça. Et il faut qu'on reconstruise l'ensemble de la filière pour pouvoir exploiter. Il y a énormément de forêts en France. Ce n'est pas exploité, je dirais, de manière suffisamment efficace aujourd'hui. Ça va le devenir. Ça va demander du temps. Et c'est toujours un peu le problème, je trouve, de la France. C'est qu'on lance des choses sans s'occuper de l'intendance qui va suivre derrière. Et la réglementation, forcément, la RT 2020 amène beaucoup de construction bois. Il va falloir quelques années pour qu'on arrive à réguler.
Voilà, donc ça, il y a une vraie problématique. Emmanuel Pesserès, vous voulez réagir parce que vous en parliez aussi. Et vous, avec un vrai choix, vous avez choisi du bois local, hein, du feuillu. Hein.
Oui, alors on a choisi du feuillu. Pourquoi ? Parce qu'il est local, parce qu'on est en Ile-de-France. Mais aussi parce que, on en parle moins, mais il y a un réel problème sur la production du bois. Et parce qu'on n'est maintenant pas dans la conservation d'écosystèmes forestiers dans lesquels on viendrait puiser avec parcimonie ce dont on a besoin pour construire. On est notamment avec le résineux dans des plantations industrielles, parfois glyphosatées, avec une même essence, et puis des coupes rases, une acidification du sol, des eaux, un écosystème détruit parce qu'en plus souvent pour des questions de rentabilité et de filière, ces choses qui ne sont plus des forêts viennent remplacer des vraies forêts. Donc voilà, il faut aussi se poser la question de quel bois on parle. Donc voilà pourquoi on a choisi notamment du feuillu. Et puis comme nous, on n'oublie pas d'aller jusqu'au bout, on fait aussi de la compensation écosystémique en replantant des haies nourricières et œuvrables, mais c'est une autre histoire que je ne vous raconterai pas aujourd'hui. Et donc, il y a aussi cette vraie problématique sur le bois qu'on a déjà quelque part solutionné parce qu'on a fait précédemment, alors je déborde un peu et je reviens sur l'idée de la construction paille, on a déjà fait un bâtiment en R+1 en paille porteuse, donc avec moins de bois, plus de paille, qui est beaucoup plus renouvelable, dont les conditions aussi de pousse sont aussi à interroger, hein, c'est ce qu'on fait. Donc il y a aussi moyen de faire du biosourcé avec une mixité des matériaux et la paille a, comme isolant, toute sa place, mais aussi sur des petits bâtiments, toute sa place pour être structurelle. Et ça, ce sera la révolution à venir. Et on en fait déjà partie, puisqu'on a déjà fait ce bâtiment de 1000 m² sur un niveau qui s'appelle Jacques Chirac, qui est un centre de loisirs à Rosny-sous-Bois.
Alors, je ferai rebondir dans un instant Christian Morel sur l'aspect paille, mais quand même la question du bois, hein, Céline Laurent, on ne peut pas faire autrement que de vous faire réagir.
Tout à fait. Non, mais je comprends. Enfin, ce sont des questions qu'on a au quotidien à résoudre. Le principe de la filière, c'est de traiter tous les chaînons de l'amont forestier, de la gestion forestière jusqu'au maître d'ouvrage qui va commander du bois. Donc, évidemment, on ne peut pas sous-estimer les questions que vient de poser l'architecte. C'est sûr que là, c'est en train de bouger. C'est-à-dire que la filière est en train à la fois de se mettre en mouvement de manière industrielle pour pouvoir produire et répondre à la commande, mais aussi penser quelle forêt on veut et quelle gestion durable de la forêt. cas, il y a eu.
Oui, parce qu'il y a cette idée toujours, hein, quand on construit une maison, on coupe du bois, on coupe des arbres, voilà. Et donc c'est pas bon. Enfin, c'est un peu le stéréotype.
Les citadins, surtout, particulièrement, c'est beaucoup moins le cas des personnes qui vivent plus proche de la nature, mais sont quand même dans une certaine schizophrénie, c'est-à-dire qu'ils veulent tous des maisons de bois, mais ils ne veulent pas qu'on coupe d'arbres. Donc il faut qu'on arrive à expliquer que ça, c'est pas possible. Ouais, c'est et surtout. Vrai. D'expliquer comment on peut couper les arbres. Donc là, il y a quand même un certain nombre d'amendements qui ont été déposés, notamment par des députés de plusieurs d'ailleurs groupes politiques, pour réduire les coupes rases, des amendements dans le cadre de la loi climat. Il y a eu le rapport d'Anne-Laure Cattelot, une députée du Nord, qui a poussé un certain nombre de choses. Donc, c'est en train de bouger au sein de la filière pour arriver, et c'est de plus en plus de toute façon demandé dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage, hein, qui est prescripteur. Finalement, c'est les maîtres d'ouvrage, les collectivités, les promoteurs qui, quand ils demandent, soit ils le demandent certifié PEFC, FSC, ou Bois de France pour vérifier la traçabilité et la provenance du bois. Donc, c'est des choses comme pour l'alimentation, on ne se posait pas la question il y a 20 ans, là, c'est en train de bouger et d'arriver aussi pour le bois.
Alors, on va faire réagir dans un instant aussi Christian Morel, mais finalement, ça arrive à notre sujet aussi, puisqu'on a beaucoup parlé de la biosourcée et aussi des enjeux d'approvisionnement. On parle de préfabrication aussi aujourd'hui, donc c'est vrai que c'est intéressant de voir à travers ce qu'a dit Emmanuel Pécresse, finalement, peut-être en trouvant aussi d'autres solutions, en mettant peut-être plus de paille, moins de bois, ça peut être aussi une des solutions pour cette préfabrication.
En fait, le système de préfabrication permet justement ça, en fait. C'est d'adapter les systèmes constructifs aux besoins du bâtiment. J'aime à dire qu'on n'est pas là pour abattre du bois, pour manger du bois. Mmh. On n'est pas là pour manger de la paille. On est là pour construire et surtout pour optimiser les systèmes constructifs. Et c'est ce que permet aujourd'hui, là, entre autres, la préfabrication, parce que ça laisse le temps aux équipes techniques de maîtrise d'œuvre, aux équipes bureaux d'études des constructeurs, de réfléchir pour trouver le meilleur système constructif, en fait. Voilà. Et de se dire, finalement, avec tel système constructif, avec tel matériau, je vais pouvoir optimiser la quantité utilisée. Voilà. Et non pas dire, je vais faire une maison en bois, donc il faut absolument qu'il y ait du bois partout, quoi. Voilà. Mmh. Ça n'a pas. Ou qui est, je sais pas, moi, on dit par exemple, dans ce bâtiment-là, il faut qu'il y ait 150 kilos de matériaux biosourcés. Mais en fait, ça veut rien dire parce qu'on parle en kilos. Mmh. Mais en fait, si vous travaillez par exemple sur de l'ossature bois, vous utiliserez beaucoup moins de bois que d'autres systèmes, en fait. Mmh. Donc c'est bien dans la réflexion, dans l'analyse des bureaux d'études qui fait qu'on va arriver grâce à la préfabrication, à une réflexion plus intéressante en termes d'usage et d'économie de matériaux.
C'est de la préfabrication d'éléments uniques. En fait, ce n'est pas des éléments qui sont reproductibles.
Rapprochez-vous du micro.
Ce ne sont pas des éléments reproductibles toujours identiques. Mmh. En fait, c'est une préfabrication, mais d'éléments uniques pour chaque projet.
D'accord.
C'est-à-dire que ce n'est pas un élément qu'on achète
sur
une étagère.
Oui, parce qu'en fait, on fait souvent la confusion entre préfabrication et standardisation. Voilà. On a l'impression que si on sort tout en usine sous le même format, on va faire des Legos.
Là, ce n'est absolument pas le cas.
D'accord.
Chaque projet est préfabriqué, mais est un objet unique.
D'accord.
Il n'y a pas un bâtiment, une ossature qui soit de la même forme, la même composition. Donc, en fait, c'est ça qui est intéressant. Et même dans les matériaux biosourcés, là, on parle beaucoup de paille, mais matériaux biosourcés, il y en a plein d'autres. Et en fonction des régions dans lesquelles on se trouve, c'était la construction vernaculaire, c'est ça, c'est on prenait les matériaux qu'on trouvait sur place et on construisait sa maison avec le caillou qui était là, avec l'arbre, parce qu'on avait des arbres à côté, ou avec de la terre dans certaines régions. Et en fait, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à retrouver, c'est utiliser les matériaux qui sont proches, et les utiliser. Et la préfabrication, comme ça se fait en atelier, c'est beaucoup plus pratique.
Oui, ça se fait en atelier, mais justement, j'aimerais bien comprendre comment on peut faire finalement différentes formes, pouvoir faire quelque chose qui n'est pas standardisé si on le fait en atelier. Comment ça se passe?
On peut adapter. C'est de la préfabrication, mais c'est pas un outil industriel.
D'accord.
C'est-à-dire que si vous n'avez pas une chaîne d'assemblage qui vous sort des voitures ou des pièces qui sont toutes identiques, c'est une chaîne d'assemblage qui vous permet d'assembler différentes formes, différemment, qui travaillent avec du bois.
Certains font la comparaison avec l'industrie automobile, hein, en disant mais on peut le faire de la même façon. Mais vous dites c'est quand même différent. On n'est pas en train de sortir de la même voiture.
Alors, les industriels rêvent de ça.
Oui.
Et nous on rêve de l'inverse. On rêve que M. Pécresse continue de faire des prototypes, des maisons qui ne soient pas reproductibles, parce que c'est pour nous, pour notre taille d'entreprise, c'est ce qui nous permet d'exister. Voilà.
Alors je ferai réagir.
On va encourager M. Pécresse à continuer à fabriquer des écoles.
Alors je ferai réagir dans un instant parce qu'il se posait la question justement de l'industrialisation. Mais vous, Céline Laurence, vous la voyez comment cette préfabrication? Parce que tout à l'heure, vous avez prononcé le mot d'industrialisation justement.
De toute façon, ce n'est pas un gros mot, l'industrialisation.
Non. Au contraire, on n'arrête pas de parler de réindustrialiser aussi. Voilà, beaucoup.
Post-Covid, il va falloir effectivement trouver une manière de réindustrialiser en France que les procédés industriels français soient en capacité de produire les différentes typologies. Là, on a beaucoup parlé d'ossature parce que c'est vraiment le cœur de le sujet et qui intègre des panneaux souvent préfabriqués, bois, paille, bois, chanvre, etc. Donc, c'est très important pour nous de se dire que ça, c'est possible en France, voire en Ile-de-France. Il y a une réflexion de la région Ile-de-France sur comment on pourrait réindustrialiser la région Ile-de-France en réintégrant notamment des cellules. Il faut voir qu'il y a la première puis la deuxième transformation. Donc, il faut qu'on ait chaque échelon qui soit présent et sur lequel on soit en capacité d'agir. Donc, moi, sur la préfabrication en tant que telle, en fait, effectivement, il ne faut pas voir ça comme une standardisation. Il faut vraiment voir ça comme une capacité à ce qui se fait normalement sur un chantier en filière humide, comme on dit, avec du béton, etc. Ça se fait en usine. Et du coup, ensuite, il y a le temps de, vraiment sur le chantier est vraiment réduit, qui permet réduire, par exemple, les bases vie sur les chantiers, de réduire la pénibilité pour les ouvriers. C'est pas inintéressant de voir voilà, que nous, aujourd'hui, on a même des grosses boîtes comme Bouygues Construction qui a signé hier, par exemple, un gros partenariat avec Boîte France et Pivetot sur du CLT. C'est intéressant de voir qu'eux aussi sont en train de changer leur manière de faire. Mais on a aussi, donc on a des grosses entreprises, mais on a aussi beaucoup de TPE, PME, et ceux-là, des charpentiers, etc., qu'on souhaite conserver et qui font un peu le cœur de la filière. Et on en a, par exemple, là où on construit le plus en France en bois, c'est en Alsace. Et donc, la région Grand Est, finalement, a conservé tous ces métiers-là, ces artisans, plutôt de l'ordre de l'artisanat, mais au sens noble du terme, et qui sont aussi dans une sorte de préfabrication, voilà, dans les ateliers.
Alors Emmanuel Pesseret, je vous ferai réagir. Maintenant, je vous fais réagir. Donc finalement, on peut faire de la préfabrication, rester local. L'industrialisation n'est pas un gros mot.
Après, il n'y a pas de gros mot en soi. Tout dépend de ce qu'on met derrière les mots. Hein. Ce que vous disiez, c'est ce qu'on a fait avec UTB. On a donc un atelier forain... On a un atelier forain.
C'est la surprise toujours dans les visios.
On a un atelier forain qui est près du chantier parce que moi je voudrais parler un peu d'espace, de temps et de société. Alors on ne va pas faire une dissertation, mais nous aussi on souhaite continuer à travailler avec des entreprises qui ont une vocation à construire un autre rapport social. UTB. Et on l'a choisi aussi parce que c'était une scope, parce qu'il y a un mode d'organisation particulier au sein de l'entreprise. On l'a choisi parce qu'elle était près de Rony. On aurait pu, et c'est là où l'industrialisation et tout ce qu'on met derrière peut avoir des fuites qu'on ne maîtrise plus, très bien commander des panneaux préfabriqués en paille en Ukraine. J'aime beaucoup les Ukrainiens, c'est pas le souci, mais ils viennent percuter nos modèles sociaux. De sécurité sociale, de sécurité au travail, de retraite. Donc, y a une complexité toujours derrière un seul mot qu'il faut toujours analyser, détailler. Donc, méfions-nous des mots. Et puis, le dernier point, c'est le temps. Je vais faire beaucoup rire M. Esco, mais je souhaite avoir beaucoup, beaucoup plus de temps pour faire ces bâtiments et justement pour peut-être même avoir le temps d'adapter les choses sur place, qui est aussi, y compris avec les usagers, qui est aussi une façon différente de voir l'architecture. Ce n'était pas le cas, donc pour le coup, peut-être que la préfabrication nous a permis de gagner ce temps et d'aller très très vite, mais pour moi, ce n'est pas forcément une qualité. Peut-être même un défaut. Je pense qu'il faut ralentir le temps de conception, il faut même ralentir le temps de la société pour éviter cet emballement qui détruit le monde.
Franck Vesseau, vous voulez
j'en prends bonne note. J'en prends bonne note.
Voilà, c'est noté. Christian Morel, peut-être aussi, finalement, on voit aussi que les métiers évoluent. Même vous, vous êtes en train, enfin, l'univers de la paille, on va dire, est en train de s'adapter, notamment à changer le format de la botte de paille. Vous m'avez expliqué.
Et effectivement, en fait, aujourd'hui, en fait, la botte de paille est utilisée depuis très, très longtemps dans le bâtiment. C'était surtout lié au mode constructeur, enfin, ce qu'on appelle par le système des autoconstructeurs, en fait. Donc, ils allaient chercher les bottes de paille chez l'agriculteur. On a quand même une contrainte forte aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, la botte de paille, en fait, le format tel qu'il est fait aujourd'hui ne correspond pas au format des besoins des bâtiments qui sont faits par les charpentiers, en fait. On parle d'Anthrax, par exemple. Voilà. Et donc, l'idée, c'est, moi, ça fait 3 ans qu'on le répète dans la filière paille, c'est que jusqu'à aujourd'hui, ce sont les charpentiers qui ont adapté leur système constructif au format de la botte de paille. Voilà.
Il faut
faire des entraxes un peu plus étroits, etc. Et donc l'objectif demain, c'est qu'effectivement, on puisse avoir des bottes de paille qui soient adaptées au système constructif des charpentiers. Voilà. Mm-hmm. C'est bien la botte de paille qui doit s'adapter au système constructif et pas le contraire. Parce qu'aujourd'hui, un système constructif, c'est effectivement, c'est le bois, ce sont les montants, c'est la paille, mais c'est aussi des panneaux, c'est des panneaux de plaques de plâtre, etc. La botte de paille ne va pas imposer à tout un monde économique du bâtiment de changer tout leur système parce que la botte de paille n'est pas dans le bon format, quoi. Voilà.
Mais c'est vraiment ça que c'est intéressant, c'est que ces acteurs-là, voilà, d'un côté la paille, de l'autre le bois, vont se rejoindre autour de ces projets et découvrir des nouvelles formes de collaboration aussi, ben, finalement.
C'est exactement ça, en fait. C'est de dire aujourd'hui, le monde de la paille doit adapter. Donc il y a des projets qui sont en cours en France, en Normandie, en région centre, pour adapter les formats de botte de paille pour que finalement, la botte de paille ne soit plus considérée comme un ovni, mais comme un matériau, comme n'importe lequel, mais qui sera beaucoup plus facile d'utilisation, et y compris dans le système de préfabrication, parce qu'en fait, on n'aura plus de problème de calcul particulier lié à la botte de paille.
Vous vouliez commenter, Franck Vesco, parce que vous avez parlé de tondeuse tout à l'heure.
Le problème, c'est qu'on n'aura plus de paille pour pailler nos jardins, parce qu'on ne pourra pas les recouper, et puis il faut surtout arriver à quelque chose, c'est éliminer les liens en plastique. Parce que si on veut aller au bout de la démarche, il ne faut pas qu'on intègre dans les murs en paille de plastique.
Voilà, c'est ce que disait aussi Emmanuel Tesserin.
Et ça, c'est toujours une difficulté parce que on passe d'un monde bâtiment à un monde agricole. Et il faut arriver, pour les agriculteurs, à faire de la botte de paille et à revenir à de la ficelle chanvre. C'est un peu compliqué, mais on va y arriver.
Alors, si on veut faire un dernier tour de table, parce que le sujet, c'était la préfabrication, meilleur ami du biosourcé. Alors, vous êtes d'accord avec cette phrase, d'abord Céline Laurence?
Moi, je voulais revenir sur deux, trois sujets qui ont été indiqués pendant cette table ronde. Déjà, parler de la formation. Je pense qu'il y a un gros sujet qui, devant nous, on parlait beaucoup d'industrialisation, mais former à tous les échelles. Donc là, on parle de Ronnie Sous-Bois qui a une spécificité avec une maîtrise d'œuvre intégrée. C'est assez exceptionnel. Ce n'est pas le cas de toutes les collectivités. Nous, on est en train de former la plupart des collectivités franciliennes, des aménageurs, etc. Il y a un gros boulot à faire parce que c'est tout un changement culturel profond. Dès la conception, donc, il y a beaucoup plus de temps de conception. Donc il faut aussi que les architectes se mettent aussi dans la façon de concevoir. On ne conçoit pas en bois et en paille comme on conçoit en structure béton, donc ça change complètement la façon de repenser la maîtrise d'ouvrage, la relation entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre, toute l'ingénierie. Donc c'est hyper important de le dire. Et donc ça, c'est un changement culturel qui va arriver au fait avec la RE2020 dont vous avez parlé, la réglementation environnementale 2020. En fait, le gros changement, il va avoir lieu en 2027-2028, pas avant, parce que en fait, il y a différents seuils, et en plus, il concerne que la construction neuve dans les logements. Donc nous, on attend évidemment qu'il y ait aussi des choses qui passent sur la construction dans le tertiaire, parce qu'il y a quand même tout un travail à faire là-dessus. Et puis sur toutes les questions de réhabilitation et d'existence, parce qu'on a beaucoup parlé du neuf, et sur l'existence, c'est là où en fait on a 90% du projet des sujets à mener. Et il faut qu'on soit dans la sobriété et aussi, par exemple, sur les innovations, les rénovations thermiques, les rénovations thermiques par l'extérieur. Évidemment que la paille et le bois ont leur part de marché à prendre, et il faudrait qu'il y ait des incitations plus fortes pour cela.
Merci à vous pour ces différents points. Emmanuel Pesserès, en une minute à peine, un mot de conclusion de votre part.
Un mot de conclusion, écoutez, c'est quand même les mondes qui s'affrontent. Hein, moi, je m'inscris en faux par rapport à ce que vient de dire mon collègue de la paille. Et je rejoins Monsieur Vesco encore une fois sur la nécessité de faire avec ce qu'on a sur place. Et j'encourage les gens à construire avec la botte de paille et le modèle de botte de paille et à trouver, et c'est tout l'intérêt de l'architecture et de ce qui a créé la richesse de la culture et de l'architecture vernaculaire, de construire avec les bottes de paille du champ d'à côté, au lieu de se... Parce que derrière la botte de paille, il y a aussi une industrialisation dont on ne parle pas, qui est l'industrialisation de l'agriculture. Qui, elle, pour le coup, si ce n'est pas un gros mot, l'industrialisation de l'agriculture, au moins ses effets peuvent être constatés et ils sont catastrophiques pour l'alimentation, pour l'environnement. Voilà, si on continue à pousser les agriculteurs dans ce sens-là, ça ne sera pas vraiment positif ni sur le bilan global, ni pour l'alimentation, ni pour la construction, qui sont les deux piliers de nos vies quand même, avec la sociabilisation. Je prône le fait de faire avec ce qu'on a sur le territoire, les entreprises, la culture, et c'est le message des autoconstructeurs premiers en paille. Donc, poursuivons ce message. J'ajouterais quand même que...
Alors, juste en 20 secondes, parce que je...
C'est juste un point technique. Nous bottelons maintenant nos bottes en cisale, alors qui est pas du champ, parce que le champ résiste mal à l'humidité, qui était ce qu'on utilisait dans les années 60, qui est un biosourcé, et là, on fait un compromis, c'est un biosourcé exotique, mais peu impactant. Voilà, donc les solutions existent, il faut poser juste les bonnes questions. Il ne faut pas attendre autant de temps. Là, j'ai entendu 27, c'est tout de suite. Nous, on n'a rien d'exceptionnel.
Non, mais c'est dans la loi, c'est dans la loi. Bon, alors, je vais passer la parole à Christian Borel. Merci à vous.
On n'est pas exceptionnel. Une toute petite équipe face à des mastodontes qui pourraient changer beaucoup plus facilement parce qu'ils ont beaucoup plus de ressources que nous. Donc, c'est très facile de changer, en fait. Il ne faut pas attendre.
Il ne faut pas attendre. Voilà, on n'a pas le temps. Là, parfois, il faut prendre le temps, mais parfois, on n'a pas le temps. Christian Borel.
Non, moi je rappelle simplement qu'effectivement aujourd'hui il y a des enjeux à la fois économiques, techniques et climatiques. Et donc aujourd'hui, la préfabrication industrielle avec du bois, avec de la paille ou d'autres matériaux biosourcés, effectivement, ça va permettre d'accélérer ce changement. Et c'est ça qui est important en fait, c'est de dire on a plus le temps d'attendre. Et moi j'aime bien répéter une phrase d'un architecte que j'aime beaucoup qui s'appelle... J'ai plus son nom en tête, excusez-moi.
Il vous reviendra peut-être ou
c'est pas grave,
en tout cas.
Qui n'arrête pas de répéter haut et fort qu'on n'est pas obligé d'attendre la réglementation pour avancer. Voilà, et ça, c'est une certitude.
Bah, d'ailleurs, il y a souvent des démarches volontaires. Alors, Franck Vesco, un mot de conclusion ?
Que le biosourcé, la préfabrication et la construction bois, ça va très bien ensemble. Et que, par contre, on n'est pas obligé d'attendre la réglementation pour avancer. Mais si on pouvait faire une réglementation plus souple, on avancerait plus vite. Parce qu'on a aussi un problème en France de surréglementation qui bloque beaucoup de projets, puisqu'à un moment donné, il y a toujours l'avis technique qui n'est pas là, le problème d'assurance, et ça nous pose énormément de problèmes dès qu'on veut innover.
Ben voilà, le message est passé. Merci à vous, Franck Vesco, directeur général délégué d'UTB, Christian Borel, directeur commercial d'Accor Paille, et puis qui était en ligne avec nous, Céline Laurence, déléguée générale de Fibois Île-de-France, et Emmanuel Pesseres, architecte en chef, directeur de la recherche et l'innovation territoriale de la ville de Rosny-sous-Bois. On va marquer une dernière pause, puisque ce sera la dernière séquence dans un instant. On va parler de tendances et de design, et en particulier, on l'a évoqué déjà durant ce rendez-vous du Mondial, de l'acoustique, nouveau confort de vie dans un court instant.
Les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Construction 4.0, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.